Acte 3e. Un coin écarté du jardin des Vengel. L'endroit est humide, marécageux et ombragé de grands vieux arbres. À droite, un petit étang vaseux. Une barrière basse, sans grillage, sépare le jardin du sentier et du fjord qu'on aperçoit à l'arrière-plan. Au fond, derrière le fjord, une chaîne de montagnes crénelée de quelques pics. Heure tardive de l'après-midi, le soir commence à tomber. Bolette coud, assise sur un banc de pierre à gauche. À côté d'elle, un livre et un panier à ouvrage. Hilde et Lingstrand, des filets à la main, se tiennent au bord de l'étang. Hilde faisant signe à Lingstrand.
« Chut ! J'en vois une grosse !»
Lingstrand regardant. « Où cela ?» Hilde indiquant.
« Vous ne voyez donc rien ?»« Là, bon, en voici encore une !»
Regardant entre les arbres.
« Malheur, il va l'effrayer !»
Bolette levant les yeux. « Qui cela, il ?»
Hilde. « Ton professeur, ma petite mère !»
Bolette. « Mon professeur ?»
Hilde.
« Pour sûr qu'il n'a jamais été le mien !» Arnholm, venant de droite, apparaît entre les arbres. Arnholm.
« Il y a donc maintenant des poissons dans l'étang ?»
Hilde.
« Oui, je vois de très vieilles carpes. »
Arnholm.
« Vraiment ? Elles vivent encore, les vieilles ?»
Hilde.
« Oui, elles ont la vie dure. Mais nous allons en attraper quelques-unes à cette heure. »
Arnholm. « Vous devriez plutôt vous aventurer sur le fjord. »
Lingstrand.
« Non, l'étang c'est plus mystérieux. »
Hilde. « Plus excitant. Vous en venez du fjord ?»
Arnholm. « J'arrive justement de la maison de bain. »
Hilde.
« Vous n'avez donc pas nagé dehors ?»
Arnholm.
« Oh, je ne suis pas un grand nageur. »
Hilde. « Pouvez-vous nager sur le dos ?»
Arnholm.
« Non. »
Hilde.
« Moi, je peux. »
Lingstrand.
« Passons de l'autre côté. »
Ils s'en vont à droite, longeant l'étang. Arnholm s'approchant de Bolette.
« Vous êtes seule, Bolette ?»
Bolette.
« Oui, comme d'habitude. »
Arnholm.
« Votre mère n'est pas au jardin ?»
Bolette.
« Non, elle doit se promener dehors avec père. »
Arnholm.
« Comment va-t-elle cet après-midi ?»
Bolette.
« Je ne sais pas, j'ai oublié de le lui demander. »
Arnholm.
« Quel livre lisez-vous là ?»
Bolette. « Oh, vous voyez, de la botanique, de la géographie. »
Arnholm. « Vous aimez cette sorte de lecture ?»
Bolette.
« Oui, je lis cela quand j'ai le temps, mais je dois avant tout prendre soin du ménage. »
Arnholm.
« Votre mère, votre belle-mère ne vous aide donc pas ?»
Bolette. « Non, c'est mon département. Je m'en suis occupée durant les 2 années que père a vécu seul et j'ai continué depuis. »
Arnholm. « Et pourtant vous avez gardé le goût de l'étude. »
Bolette.
« Oui, je lis des livres utiles tant que je peux. Il faut bien se renseigner un peu sur le monde qu'on habite. Nous sommes ici tellement en dehors de tout. »
Arnholm. « Ne dites pas cela, chère Bolette. »
Bolette. « Oh si, il n'y a pas grande différence, je crois, entre notre vie et celle des carpes de l'étang. Elles sont tout près du fjord, que fendent en tous sens les poissons sauvages, les grands poissons de mer. Mais tous ces pauvres poissons d'eau douce n'en savent rien. Jamais ils ne prendront part à cette existence inconnue. »
Arnholm.
Ils auraient tort, je crois, de s'y aventurer.
Bolette.
Mon Dieu, ils n'en seraient peut-être pas beaucoup plus à plaindre.
Arnholm.
D'ailleurs, vous ne pouvez pas dire qu'on soit ici tellement en dehors de tout, pas en été du moins. C'est devenu, paraît-il, une espèce de carrefour des nations, presque un centre universel par où l'on passe, il est vrai, sans s'y arrêter.
Bolette souriant.
Oui, oui, moquez-vous de nous, vous qui n'êtes ici vous-même qu'en passant.
Arnholm.
Voyons, ai-je l'air de me moquer de vous ?
Bolette.
Oui, puisque vous répétez les propos qu'on tient en ville. Centre universel, carrefour des nations. On n'entend que cela ici.
Arnholm.
Eh bien oui, je l'avoue, j'en ai été frappée.
Bolette.
Dans tout cela, il n'y a pas un mot de vrai. Que nous importe à nous, qui sommes fixés ici pour toujours, que des gens de tout pays viennent là pour aller voir le soleil de minuit. Nous continuons, nous, à vivre dans la mare aux carpes.
Arnholm, s'asseyant près d'elle.
« Dites-moi, chère Bolette, cette nostalgie que trahissent vos paroles n'aurait-elle pas quelque raison spéciale ?»«
Dites. »
Bolette.
« Peut-être. »
Arnholm. « Voyons, qu'est-ce que cela peut bien être ? Après quoi soupirez-vous ainsi ?»
Bolette.
« Avant tout, je voudrais sortir d'ici. M'en aller. »
Arnholm.
« Avant tout, dites-vous. »
Bolette.
« Et puis je voudrais apprendre plus que je ne sais, me rendre un peu compte de tout. »
Arnholm.
« Du temps où je vous donnais des leçons, votre père parlait de vous faire entrer à l'université. »
Bolette,
pauvre père, il dit tant de choses, mais le moment venu... Il manque un peu de ressort, père. Arnholm. Hélas, oui, il n'en a pas beaucoup. Mais avez-vous jamais abordé la question? Lui avez-vous parlé sérieusement, avec insistance?
Bolette. Non, c'est vrai, jamais.
Arnholm. Eh bien, il faut le faire, absolument, avant qu'il soit trop tard. Pourquoi n'avez-vous pas fait cela, Bolette?
Bolette.
Sans doute parce que, moi aussi, je manque de ressort. Je dois tenir cela de mon père.
Arnholm.
Peut-être êtes-vous injuste envers vous-même.
Bolette. Hélas, non.
Et puis père n'a guère le temps de s'occuper de mon avenir. Et il n'en a guère envie non plus. C'est là un souci dont il aimerait à se décharger. Il est si exclusivement épris d'Elida.
Arnholm.
De qui dites-vous?
Bolette. Je veux dire que lui et ma belle-mère...
S'interrompant. Enfin, mon père et ma mère ont leur existence à eux, vous comprenez?
Arnholm.
Eh bien, raison de plus, pour vous, de vous affranchir.
Bolette.
Oui, mais ai-je bien le droit de le faire, le droit d'abandonner père?
Arnholm.
Mais, chère Bolette, il faudra bien que vous vous y décidiez un jour. Autant le faire dès maintenant.
Bolette.
Allons. Je vois qu'il faut passer par là, en effet. Il me faut penser un peu à moi-même, tâcher de me faire une position. Si père venait à me manquer un jour, je resterais sans appui aucun.
Pauvre père.
C'est égal, je tremble à l'idée de le quitter.
Arnholm.
Vous tremblez?
Bolette.
Oui, pour lui.
Arnholm.
Eh, mon Dieu, n'a-t-il pas votre belle-mère? Elle est là pour...
Bolette.
Oui, oui, mais elle ne sait pas s'y prendre avec lui dans certains cas, comme le savait mère. Il y a tant de choses que celle-ci ne voit pas, ou peut-être ne veut pas voir, ou dont elle ne se soucie pas. Je ne sais qu'en penser, au juste.
Arnholm.
Je crois comprendre à quoi vous faites allusion.
Bolette.
Pauvre père, il a ses faiblesses. Vous l'aurez peut-être remarqué vous-même. Les affaires ne suffisent pas à remplir sa journée. Et puis, il ne trouve pas chez sa femme le soutien dont il a besoin. C'est peut-être un peu sa propre faute.
Arnholm.
Comment cela?
Bolette.
Oh, père aime tant avoir autour de lui des visages gais. Il faut, comme il dit, du soleil dans la maison. Alors, je crains que parfois il ne lui donne des drogues qui finissent par lui faire du mal.
Arnholm.
Vous croyez?
Bolette.
On ne m'ôtera pas cela de la tête. Elle est si étrange de temps en temps.
Vivement.
Non, ce n'est pas juste, après tout, que je reste dans cette maison. Je ne suis, à vrai dire, d'aucun secours à mon père. Et il me semble que j'ai aussi quelques devoirs envers moi-même.
Arnholm.
Écoutez, Bolette, il faut que nous parlions sérieusement de cela, vous et moi.
Bolette,
à quoi bon? Après tout, je suis sans doute faite pour rester toute ma vie dans la mare aux carpes.
Arnholm.
Mais non, il dépend de vous d'en sortir.
Bolette, vivement.
Vous croyez?
Arnholm.
J'en suis sûre. Vous êtes entièrement maîtresse de votre destinée.
Bolette.
Oh, s'il pouvait en être ainsi. Auriez-vous l'intention de parler à père?
Arnholm.
Cela aussi. Mais avant tout, je tiens à vous parler à vous-même, ma chère Bolette, bien franchement, à cœur ouvert, regardant à gauche. Chut, ne faites semblant de rien, nous reprendrons cette conversation plus tard. Elida vient de gauche, elle est sans chapeau, enveloppée seulement dans un grand châle qui lui couvre la tête et les épaules. Elida, avec une vivacité inquiète. Il fait bon ici, c'est délicieux.
Arnholm se levant.
Vous avez fait une promenade?
Elida.
Oui. Une belle et longue promenade avec Wangel. Maintenant, nous appareillons.
Bolette, tu ne veux pas t'asseoir?
Elida, non, merci, pas m'asseoir.
Bolette faisant place sur le banc.
Il y a de la place, tu sais?
Elida, allant et venant.
Non, 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 pas m'asseoir, pas m'asseoir.
Arnholm,
la promenade vous a fait du bien, vous paraissez tout animée.
Elida,
oh, je me sens si bien. C'est un sentiment de bonheur comme je n'en ai jamais éprouvé, d'immense sécurité.
Regardant à gauche.
« Quel est ce grand vapeur qui arrive ?»
Bolette se levant et regardant.
« C'est sans doute le grand bateau anglais. »
Arnholm.
« Il s'arrête à la bouée.
Est-ce sa place ordinaire ?»
Bolette.
« Oui, il y fait halte une demi-heure avant de remonter le fjord. »
Elida. « Il ressortira demain. Il reprendra le large. Il regagnera la pleine mer. La mer ouverte, celle qui s'étend jusqu'à l'autre continent. » Si on était à bord, si on pouvait, si on pouvait.
Arnholm.
Vous n'avez jamais fait de traversée, Madame Wangel?
Elida.
Jamais. De petits voyages dans les fjords, c'est tout.
Bolette.
Ma foi, oui. Il faut bien nous contenter de la terre ferme.
Arnholm.
Eh, n'est-ce pas notre élément, après tout?
Elida.
Je ne le crois pas.
Arnholm.
La terre ferme. Elida, non, je ne crois pas que ce soit notre élément. Je crois que si l'homme avait pris dès l'origine l'habitude de vivre sur mer, dans la mer peut-être, nous aurions atteint aujourd'hui une perfection dont nous n'avons aucune idée. Nous serions meilleurs et plus heureux. Arnholm, vous le croyez vraiment ? Elida, oui, c'est vraiment mon idée. J'en ai souvent parlé à Wangel. Arnholm, et qu'en dit-il, lui ? Elida, que je pourrais bien avoir raison. Arnholm, plaisantant. Ah, admettons. Mais ce qui est fait, nous nous sommes trompés de route et sommes devenus des animaux de terre au lieu de devenir des animaux marins. Il est trop tard pour rentrer dans le droit chemin. Elida, vous dites là une triste vérité, et je crois que les hommes en ont l'obscur sentiment, que ce sentiment les travaille comme un mal rongeur. Croyez-moi, c'est là que la tristesse humaine a sa racine la plus profonde. Oui, oui, vous pouvez m'en croire. Arnholm, mais, chère madame Wangel, les hommes ne me font pas l'effet, en général, d'être à tel point rongés de tristesse. Il me semble au contraire que la plupart d'entre eux prennent la vie gaiement et qu'il règne au fond de leurs âmes une grande joie, calme et inconsciente. Elida, non, c'est faux. Cette joie est celle qu'on éprouve durant les longs jours d'été et que trouble le pressentiment des ténèbres prochaines. Il plane sur les joies humaines, comme la nue errante plane sur le fjord qu'elle obscurcit de son ombre. Tout à l'heure, la nappe bleue miroitait au soleil, et soudain, Bolette, tu ne devrais pas t'abandonner à ces tristes pensées. Tu étais à l'instant si gaie, si animée. Elida, oui, oui, je l'étais. Oh, c'est si bête. Regardant autour d'elle inquiète. Et Wangel qui ne vient pas. Il me l'avait promis. Il ne viendra pas. Il aura oublié. Mon cher Arnholm, vous seriez bien gentil de me l'amener. Arnholm, très volontiers. Elida, dites-lui de venir de suite, je ne le vois plus. Arnholm, vous ne le voyez plus ? Elida, vous ne comprenez pas. Quand il n'est pas près de moi, il m'arrive d'oublier son visage, et il me vient une affreuse sensation, celle de l'avoir perdu. Allez, allez, je vous en prie. Elle va et vient au bord de l'étang. Bolette à Arnholm. Je vous accompagne, vous n'êtes pas au courant. Arnholm, mais si je vais. Bolette à mi-voix. Non, non, je suis inquiète, j'ai peur qu'il ne soit allé faire un tour au bateau. Arnholm. Peur ? Bolette. Oui, il va voir s'il y a des connaissances à bord, et alors il entre au restaurant, vous comprenez ? Arnholm. Très bien, venez. Ils disparaissent à gauche. Elida se tient un instant immobile au bord de l'étang, le regard fixé sur l'eau. De temps en temps, elle dit tout bas quelques mots sans suite. Sur le sentier, derrière la barrière du jardin, on aperçoit un étranger, en habit de voyage, chevelure et barbe drue et rousse, bonnet écossais, sac de voyage en bandoulière. L'étranger longe lentement la barrière et plonge son regard dans le jardin. En apercevant Elida, il s'arrête, la regarde fixement et dit d'une voix étouffée « Bonsoir, Elida. » Elida se retourne et s'écrie « Enfin, mon chéri, te voici !» L'étranger « Oui, enfin. » Elida, le regardant étonnée, inquiète. Qui êtes-vous ? Vous cherchez quelqu'un ? L'étranger. Tu le sais. Elida saisit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce à moi que vous parlez ? Qui cherchez-vous ? L'étranger. Toi, tu le vois bien. Elida, altérée. Ah ! Elle le regarde fixement, fait un pas en arrière, en frissonnant, et pousse un cri à demi étouffé. Oh, ses yeux ! Ses yeux ! L'étranger. « Allons, tu commences à me reconnaître ? Moi, je t'ai reconnue tout de suite, Elida. » Elida. « Oh, ses yeux ! Ne me regardez pas ainsi, je vais appeler !» L'étranger. « Chut, chut ! N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. » Elida, se couvrant les yeux. « Ne me regardez pas ainsi, vous dis-je » L'étranger s'accoudant à la barrière. « J'ai pris le bateau anglais. » Elida, le regardant attentivement à la dérobée. « Que me voulez-vous ? » L'étranger. Ne t'ai-je pas promis de venir aussitôt que je le pourrai ? Elida. Partez, allez-vous-en, ne revenez jamais, jamais. Je vous ai écrit que tout était rompu entre nous, tout, vous le savez. L'étranger, impassible, sans répondre. Je serais venu plus tôt, mais c'était impossible. Enfin j'ai pu venir. Et me voici, Elida. Elida. Mais que me voulez-vous ? Que demandez-vous ? Pourquoi êtes-vous venu ? L'étranger. « Tu comprends que si je suis venue, c'est pour t'emmener. » Elida reculant avec effroi. « M'emmener ? Vous voulez m'emmener ? » L'étranger. « Sans doute. » Elida. Ne savez-vous donc pas que je suis mariée ?
L'étranger.
Je le sais. Elida. Et malgré cela, vous venez ? Vous venez m'emmener ?
L'étranger.
Oui.
Elida se prenant la tête entre les mains.
Quelle horreur ! Quelle épouvante !
L'étranger. Est-ce que tu ne voudrais pas ?
Elida effarée. Ne me regardez pas ainsi.
L'étranger. Je te demande si tu ne veux pas.
Elida. Non, 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 je ne veux pas. Je ne veux pas, jamais, jamais, je ne veux pas, vous dis, je ne veux pas, je ne veux pas.
Plus bas.
Je n'ose pas.
L'étranger franchit la barrière et entre au jardin.
C'est bien, Elida, c'est bien. Laisse-moi seulement te dire un mot avant de partir.
Elida veut fuir mais ne peut pas. Elle semble paralysée par la peur et s'appuie à un tronc d'arbre près de l'étang.
« Ne me touchez pas, ne m'approchez pas, pas un pas de plus, ne me touchez pas, vous dis-je »
L'étranger, avec ménagement, faisant quelques pas vers elle. « Il ne faut pas avoir si peur de moi, Elida. » Elida se couvrant les yeux.
« Ne me regardez pas ainsi. »
L'étranger. « N'aie pas peur, n'aie donc pas peur. » Wangle arrive par le jardin. Wangle, à mi-chemin entre les arbres.
« Eh bien, je t'ai fait attendre longtemps. »
Elida se précipite vers lui et se cramponne à son bras en s'écriant
« Sauve-moi, Wangle, sauve-moi si tu peux !»
Wangle.
« Qu'y a-t-il, Elida ? Au nom de Dieu, qu'y a-t-il ? »
Elida.
« Sauve-moi, Wangle, vois-tu cet homme, là ?»
Wangle regardant.
« Cet homme ?»
S'approchant. « Puis-je savoir qui vous êtes et pourquoi vous venez dans mon jardin ?» L'étranger indiquant Elida. « J'ai à lui parler, à elle. » Wangle.
« Vraiment ? C'était donc vous ?»
À Elida. On m'a dit en effet qu'un étranger avait demandé à te parler.
L'étranger.
C'était moi.
Wangle. Et que lui voulez-vous à ma femme ?
Se tournant vers elle. Tu le connais, Elida ?
Elida bat, se tordant les mains. Si je le connais ? Oui, oui, oui.
Wangle brusquement. Eh bien ?
Elida. C'est lui, Wangle. C'est lui. Celui que tu sais.
Wangle.
Quoi ? Que dis-tu là ?
Se tournant vers lui.
« Vous êtes ce Johnston qui... »
L'étranger. « Va pour Johnston. Vous pouvez m'appeler ainsi si bon vous semble, quoique ce ne soit pas mon nom. »
Wangle.
« Ce n'est pas votre nom. »
L'étranger.
« Alors qu'il est, non. »
Wangle. « Et que lui voulez-vous à ma femme ? Car vous devez savoir que la fille du gardien du phare est mariée depuis longtemps, et vous savez sans doute avec qui. »
L'étranger.
« Il y a 3 ans que je le sais. »
Elida, anxieusement.
« Comment l'avez-vous appris ?»
L'étranger. « Je venais te rejoindre. Un vieux journal me tomba entre les mains, c'était un journal d'ici. Il y était question de ton mariage. »
Elida, le regard perdu devant elle. « C'était donc cela ?»
L'étranger. « Cela me fit un singulier effet. Quand nous joignîmes nos bagues, Elida, c'était aussi un mariage. »
Elida, se cachant la figure dans les mains.
« Oh !»
Wangle. « Comment osez-vous ?»
L'étranger. « L'avais-tu oublié ?»
Elida, sentant son regard fixé sur elle, s'écrie « Ne me regardez pas ainsi !»
Wangle, se plaçant devant lui.
« C'est à moi que vous devez vous adresser, pas à elle. En 2 mots, maintenant que vous savez à quoi vous en tenir, vous n'avez plus rien à faire ici. Pourquoi avez-vous voulu parler à ma femme ?»
L'étranger. « J'avais promis à Elida de venir la retrouver dès que je le pourrais. »
Wangle. « Elida, encore !»
L'étranger.
Et Elida avait promis de m'attendre.
Wangle.
Je vous entends appeler ma femme par son prénom. Ces familiarités ne sont pas de mise chez nous.
L'étranger. Je le sais, mais comme c'est à moi qu'elle appartient avant tout.
Wangle. À vous ? Vous persistez !
Elida se serrant contre Wangle.
Oh, il ne me lâchera pas.
Wangle.
Elle vous appartient. Vous dites qu'elle vous appartient.
L'étranger. Vous a-t-elle parlé des 2 bagues ? « La sienne et la mienne ?»
Wangle.
« Oui, eh bien, n'a-t-elle pas rompu avec vous ? Vous avez reçu ses lettres, vous le savez donc aussi bien que moi. »
L'étranger.
« Nous sommes convenus, Elida et moi, qu'en unissant nos bagues, nous nous unissions à jamais, par un pacte égal au mariage. »
Elida. « Mais je ne veux pas, entendez-vous ? Je ne veux plus entendre parler de vous. Jamais, ne me regardez pas ainsi, je ne veux pas, vous dis-je. »
Wangle. « Il faut que vous soyez un fou pour prétendre fonder un droit sur un simple jeu d'enfant. »
L'étranger.
« C'est vrai,
Je n'ai aucun droit dans le sens que vous attachez à ce mot. » Vangel. « Alors, que prétendez-vous faire ? Vous ne vous figurez pas, j'imagine, que vous me l'enlèverez de force, contre son gré. »
L'étranger. « Non, à quoi bon ? Si Elida veut me suivre, il faut qu'elle vienne librement. »
Elida saisit ses cris. « Librement ?»
Vangel.
« Et vous vous figurez que... »
Elida, le regard perdu.
« Librement ?»
Vangel.
« Vous n'êtes pas dans votre bon sens. Allez-vous-en, nous n'avons plus rien à nous dire. »
L'étranger regardant sa montre. « Il est bientôt l'heure de remonter à bord, s'avançant d'un pas.
« Oui, oui, Elida, j'ai fait mon devoir, moi, se rapprochant encore. J'ai tenu la parole que je t'avais donnée. »
Elida, avec une supplication dans la voix, en reculant.
« Oh, ne me touchez pas !»
L'étranger. « Je te laisse le temps de réfléchir jusqu'à demain soir. »
Vangel, il n'y a pas à réfléchir. Partez, et plus vite que cela !»
L'étranger, continuant à parler à Elida.
Le bateau va remonter le fjord. Il reviendra demain soir. Je serai là, tu m'attendras au jardin. Tu comprends, il vaut mieux que nous soyons seuls pour terminer cette affaire.
Elida, bat en tremblant.
Tu entends, Vangel ?
Vangel, sois tranquille, nous saurons empêcher cette visite.
L'étranger.
Au revoir, Elida, à demain soir.
Elida, suppliante. « Oh non, non, ne revenez pas demain soir, ne revenez jamais !»
L'étranger. « Et si jusque-là tu te décidais à me suivre, à prendre la mer avec moi ?»
Elida. « Oh, ne me regardez pas ainsi !»
L'étranger. « Il faudrait être prête à partir. »
Vangel. « Rentre à la maison, Elida. »
Elida. « Je ne peux pas.
Oh, viens à mon secours, Vangel, sauve-moi !»
L'étranger. « Car, sache-le bien, si tu ne pars pas avec moi demain, c'est fini pour toujours. »
Elida, le regardant en tremblant.
« Pour toujours ?
Fini, dites-vous ? »
L'étranger hochant la tête.
« Irrévocablement, Elida. Je ne reviendrai jamais dans ces parages. Tu ne me reverras jamais. Tu n'entendras jamais parler de moi. Je serai mort pour toi. »
Elida, avec un soupir inquiet.
« Oh ! »
L'étranger. « Ainsi réfléchis bien. » avant de te décider.
Adieu.
Il repasse la barrière, s'arrête et ajoute. Je le répète, Elida, sois prête à partir demain soir. Je viendrai te chercher. Il s'en va lentement, d'un pas calme, par le sentier, et disparaît à droite.
Elida, le suivant un instant du regard. Librement, a-t-il dit. Pense donc, partir avec lui librement. Il a dit cela.
Vangel. Allons, remets-toi. Il est parti, tu ne le reverras plus jamais.
Elida, penses-tu ? Il reviendra demain soir.
Vangel, qu'il revienne s'il veut. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne te verra pas.
Elida secouant la tête.
Non, Vangel, tu ne peux l'en empêcher.
Vangel, mais si, ma chérie, compte sur moi.
Elida, réfléchissant sans l'écouter.
Et après son retour demain soir ? Et après son départ, ensuite ?
Vangel, eh bien...
Elida, crois-tu qu'il ne revienne plus jamais ? Jamais ?
Vangel, non, chère Elida, tu peux être tranquille. Que viendrait-il faire ici désormais, maintenant que tu lui as nettement signifié ton désir de ne plus entendre parler de lui ? Avec cela, tout est dit.
Elida, le regard perdu devant elle. Ainsi ? Demain ou jamais ?
Vangel, et si même il s'avisait de revenir ?
Elida, anxieuse. Alors ?
Vangel,
il est en notre pouvoir de le rendre inoffensif.
Elida, comment cela ?
Vangel, c'est en notre pouvoir, te dis-je. S'il n'y a pas d'autre moyen pour t'en débarrasser, on lui demandera de s'expliquer sur la mort du capitaine.
Elida, violemment.
Non, 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 pas cela. Nous ne savons rien sur la mort du capitaine, absolument rien.
Vangel, nous ne savons rien, puisqu'il te l'a avoué lui-même.
Elida, non, non, je ne veux pas. Si tu parles, je nie tout. Il ne faut pas qu'on l'enferme. Il appartient au large, au grand large. Il appartient à la mer.
Vangel la regarde et dit lentement.
Ah, Elida, Elida.
Elida se cramponnant violemment à lui.
Oh, mon cher Vangel, mon fidèle appui, sauve-moi des mains de cet homme.
Vangel se dégageant doucement. Viens avec moi, viens. Lyngstrand et Hilde, leurs filets à la main, viennent de droite en longeant l'étang. Lyngstrand s'approchant vivement d'Elida.
« Madame, Il se passe quelque chose d'étrange. Wangle.
Quoi ?
Lyngstrand. Figurez-vous que nous avons vu passer l'Américain.
Wangle.
L'Américain ?
Hilde.
Moi aussi, je l'ai vu.
Lyngstrand.
Il se dirigeait vers la mer. Il doit s'être embarqué sur le grand bateau anglais.
Wangle.
D'où connaissez-vous cet homme ?
Lyngstrand.
J'ai fait une traversée avec lui. J'étais sûre qu'il s'était noyé. Et le voici bien vivant.
Wangle.
Savez-vous quelque chose de précis sur son compte ?
Lyngstrand.
Non, mais il vient certainement tirer vengeance de l'infidèle.
Wangle.
Comment cela ?
Hilde.
Lyngstrand va s'en inspirer pour faire une œuvre d'art.
Wangle.
Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites.
Elida.
Je t'expliquerai cela. Arnold et Bolette arrivent par le sentier venant de gauche. Bolette par-dessus la barrière. Venez voir, voici le bateau anglais qui remonte le fjord. On voit passer, à quelque distance, un grand bateau.
Lyngstrand.
C'est cette nuit qu'il viendra la trouver, j'en suis sûre.
Hilde, opinant de la tête.
Oui, oui, l'infidèle.
Lyngstrand.
À minuit.
Hilde.
Oh, ce sera bien excitant.
Elida, suivant des yeux le bateau.
Ainsi, demain...
Wangle.
Et puis plus jamais.
Elida, bas, d'une voix tremblante.
Oh, Wangle, sauve-moi de moi-même.
Wangle, la regardant avec angoisse.
Elida, il y a au fond de tout cela quelque chose qui m'échappe.
Elida.
Oui, il y a le vertige, l'attirance.
Wangle.
L'attirance ?
Elida.
Cet homme est comme la mer.
Elle traverse le jardin, se dirigeant vers la gauche lentement, l'air absorbé. Wangle marche à côté d'elle, en la scrutant du regard.